Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du jeudi 12 mai 2022. Avec vous, Eric Manirakiza
et Yacouba Ouidraogo. Voici d'abord le sommet.
Au nord du Togo, 8 soldats tués dans une attaque terroriste selon le gouvernement.
La justice malienne convoque le ministre français des Affaires étrangères.
En Guinée, l'organe législatif valide une transition de 3 ans avant le retour des civils au pouvoir.
La coalition internationale anti-État islamique se mobilise contre la menace terroriste en Afrique.
Le Sénat américain échoue à adopter une loi garantie garantissant l'accès à l'avortement.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au moins 8 soldats togolais ont été tués et 13 blessés dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. Le mai indique que c'est une poste de sécurité avancée dans la préfecture de Pendjal, près de la frontière du Burkina Faso, qui a été attaquée. De Lomé, notre correspondant Kossi Ouassou.
C'est la première fois qu'une attaque d'une telle envergure frappe le Togo. Selon un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, elle a fait 8 morts et 13 blessés du côté des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a condamné cette attaque qu'il qualifie de lâche et de barbare. Les forces de sécurité sont déterminées à rechercher et à mettre hors d'état de nuire ces groupes armés qui semblent étendre le théâtre de leurs opérations. Dans la nuit du 9 novembre 2021, un autre poste avait été attaqué. À l'époque, le ministre de tutelle, Yark Damran, n'avait pas donné de bilan de cette attaque dans la localité de Sanluaga, dans le Pendjal, toujours près du Burkina Faso. Lors d'une récente conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, a affirmé que nous sommes dans un contexte très dangereux qui menace nos vies et nos intégrités territoriales. Les faits viennent de lui donner raison. Kossi Ouassou, Lomé pour VOA Afrique.
La justice malienne convoque le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'est dans le cadre d'une enquête portant sur une atteinte aux biens publics et autres infractions. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un juge du pôle économique et financier de Bamako invite Jean-Yves Le Drian à se présenter à son cabinet le 20 juin 2022. Une source judiciaire malienne a précisé à l'AFP que cette enquête faisait suite à une plainte d'une plateforme de plusieurs associations de la société civile malienne dénommée Malico. Il s'agit d'une affaire liée à l'attribution d'un marché de fabrication de passeports maliens à une société française à laquelle le fils de Le Drian serait lié, a ajouté cette source judiciaire. Selon un document officiel, l'affaire date de 2015, lorsque Ibrahim Boubacar Keïta était président du Mali. À cette époque, une société française, Oberture Technologies, a obtenu le marché de fabrication des passeports biométriques maliens pour une dizaine d'années. Le Drian était à l'époque ministre de la Défense. A-t-il appuyé le dossier pour défendre une entreprise française ou ses intérêts? Voilà en gros ce que la justice malienne cherche à comprendre, a déclaré une autre source judiciaire malienne. Cette convocation du chef de la diplomatie française intervient alors que les rapports entre Bamako et Paris sont au plus bas.
En Guinée, le CNT, Conseil national de la transition, a réduit de 3 ans le chronogramme proposé par la junte au pouvoir. L'organe législatif a adopté mercredi une transition de 3 ans, estimant que toutes les activités sont réalisables dans ce délai pour le retour à l'ordre constitutionnel.
Les conseillers nationaux se sont prononcés sur la durée de la transition au moment où une curieuse réunion s'est tenue sur la même question à Conakry entre le parti du président déchu et celui de son ancien opposant. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Kamara.
Une association des adversaires, les uns et les autres n'y voient pas d'objection. Le RPG arc-en-ciel de l'ex-président Alpha Condé et le G58 dont l'UFDG de Sylou d'Alain Diallo ont échangé ce mercredi à Conakry autour de la durée de la transition. Les deux parties ont déclaré que l'annonce de la durée faite par le président Mamadi Doumbouya est une violation de l'article 77 de la charte de la transition. Elles ont décidé de rejeter cette décision qu'elle qualifie d'unilatérale. Cette classe politique, qui dit ne reconnaître aucun pouvoir au CNT, renouvelle son appel pour la mise en place sans délai d'un cadre de dialogue entre le CNRD et les forces vives sous la médiation de la CEDEAO. Enfin, le RPG arc-en-ciel et le G58 appellent leurs militants à rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques et le double qu'a proposé, par exemple, l'UFDG de Sélou d'Alain Diallo. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Un avion d'une compagnie privée assurant la maintenance de conduite d'hydrocarbures s'est écrasé mercredi dans une forêt du centre du Cameroun avec 11 personnes à bord et les secours tentent de retrouver les occupants, dit le ministère des Transports dans un communiqué.
La coalition internationale anti-État islamique réunie mercredi à Marrakech au Maroc s'est engagée à poursuivre la lutte contre la menace croissante de l'organisation djihadiste en Afrique et sa résurgence au Moyen-Orient et dans le reste du monde. Les précisions de John Lindon.
Cette réunion a mobilisé sous haute sécurité une quarantaine de chefs de la diplomatie. Initialement co-hôte de la réunion avec son homologue marocain Nasser Bourita, le secrétaire d'État Anthony Blinken, testé positif au Covid-19, a été remplacé par la numéro 3 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland. Nous sommes rassemblés pour partager l'engagement d'assurer la défaite durable du groupe État islamique en Irak et en Syrie à travers le continent africain et dans le monde entier, a affirmé Mme Nuland. C'est la première fois que cette coalition, lancée en 2014 et qui rassemble 84 États et organisations dont l'OTAN et Interpol, tenait cette assemblée sur le sol africain. Aujourd'hui, 27 entités terroristes basées en Afrique sont inscrites sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a indiqué M. Bourita. Un total de 1,4 million de personnes ont été déplacées en 2021 en Afrique de l'Ouest en raison des conflits dans la région, a-t-il précisé. Au Sahel, le nombre d'incidents terroristes a augmenté de 43% entre 2018 et 2021, selon les chiffres du contre-terrorisme américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Sénat américain a échoué mercredi à adopter une loi garantissant l'accès à l'avortement dans tout le pays, à l'heure où ce droit est fortement menacé par une décision à venir de la Cour suprême. Ce vote était surtout symbolique, les démocrates ne disposant pas des 60 voix sur 100 nécessaires pour avancer sur ce texte.
Le président Joe Biden accueille jeudi les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est à Washington pour afficher l'engagement concret des États-Unis dans cette région face aux appétits croissants de la Chine.
Les armes semi-automatiques doivent rester accessibles à tous les Californiens adultes, a décidé mercredi une cour d'appel qui a jugé contraire à la Constitution américaine une loi locale tentant d'en interdire l'achat aux individus de moins de 21 ans.
Les élus de Californie, État majoritairement démocrate, ont adopté ces dernières années plusieurs lois pour instaurer une régulation plus stricte des armes à feu qui font environ 45 000 morts chaque année aux États-Unis.
La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre international en raison de son invasion de l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine, a déclaré jeudi à Tokyo la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a rencontré le premier ministre japonais Fumio Kishida avec le président du Conseil européen, Charles Michel.
La position de plus en plus musclée de Pékin en Asie était également à l'ordre du jour, l'Union européenne cherchant à jouer un rôle plus important face à Pékin.
Un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine, ce qui sera le premier procès avec ce chef d'accusation, a annoncé mercredi la procureure générale de Kiev. Vadim Chichimarin est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans qui n'était pas armé, a expliqué le bureau de la procureure dans un communiqué. Placé en détention, il risque un emprisonnement à vie s'il est reconnu coupable de crime de guerre et de meurtre avec préméditation.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, réuni en session extraordinaire, se penche jeudi sur les allégations d'exactions graves commises par la Russie en Ukraine, en particulier à Mariupol et Boutcha. Cette réunion a été demandée par Kiev qui, selon un premier projet de résolution, souhaite une enquête sur ce qui s'est passé dans les régions de Kiev.
Les États-Unis ont condamné fermement la mort de la journaliste américano-palestinienne d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tuée par balle mercredi alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne à Jenin, en Cisjordanie occupée, et réclamait une enquête transparente et immédiate.
Le département d'État a lui aussi appelé à une enquête immédiate et minutieuse, demandant à ce que les coupables rendent des comptes par la voix de son porte-parole Ned Price. Le groupe des pays arabes à l'ONU a réclamé mercredi dans un communiqué une enquête internationale indépendante sur l'assassinat de la journaliste Shirin, a annoncé l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies, Riyad Mansour. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Bienvenue dans la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Claire Morin-Gibourg.
Au Gabon, la première édition des journées du banquier de la CEMAC a eu lieu à Libreville, organisée par la Fédération des associations professionnelles des établissements de crédit. Cette rencontre dans la capitale gabonaise a pour but de réfléchir sur la relance de l'économie de la région après la pandémie du Covid-19. La Côte d'Ivoire va bénéficier du soutien de l'Égypte pour améliorer sa filière aquacole et renforcer l'offre en poisson sur le marché intérieur. Le poisson est la principale source de protéines animale de la population ivoirienne et la Côte d'Ivoire ne produit que 17% de sa consommation en poisson et dépend presque totalement de la sous-région en matière de protéines animales, selon Sidi Thiemoko Touré, ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques. Les agriculteurs zimbabwéens comptent sur le boom du cannabis thérapeutique pour relancer l'économie locale après plusieurs décennies de crise, bien qu'ils restent confrontés à une série d'obstacles réglementaires et à des coûts de production élevés. Le Zimbabwe est devenu l'un des premiers sur le continent à légaliser la production de cannabis à usage médical en 2018. L'industrie mondiale du cannabis pourrait représenter 272 milliards de dollars d'ici 2028.
Et nous retrouvons Bagassi Koura pour votre page des sports. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour à tous. On commence par du football. La décision de la CAF en début de semaine d'organiser la finale de la Ligue des champions africaines 2021-2022 au Maroc ne passe pas. Cette finale de la compétition phare du continent devrait opposer les Égyptiens d'Al Ahly aux Marocains du Wydad de Casablanca. Mais dans un tweet, Al Ahly dit avoir saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport, pour contester cette décision qui donne, selon Al Ahly, un avantage de terrain aux Marocains. Selon Afrique Football, le club demande à ce que la finale du 30 mai ait lieu sur un terrain neutre. Mardi, la CAF avait annoncé que cette finale aura lieu au Maroc. En football toujours, le match amical prévu entre le Brésil et l'Argentine le 11 juin en Australie dans le cadre de leur préparation à la Coupe du Monde Qatar 2022 a été annulé. Annonce faite hier par la CBF, la Confédération brésilienne de football. La société chargée des droits de télévision pour les matchs amicaux du Brésil a informé la veille la CBF que le match prévu à Melbourne était annulé sans plus d'explications, a déclaré Juninho Paulista, coordonnateur de l'équipe nationale brésilienne, lors d'une conférence de presse à Rio de Janeiro. Cette annulation affecte grandement notre préparation pour la Coupe du Monde, a-t-il regretté. On était prêt avec toute la logistique nécessaire pour ce match, car on avait compris qu'on se devait de remplir ce contrat. En football toujours, cette fois-ci en Italie, l'Inter Milan a délesté la Juve du dernier titre qui lui restait en mettant la main sur la Coupe d'Italie 4-2 après prolongation au terme d'un match à rebondissement ponctué par deux pénaltys accordés à l'Inter mercredi à Rome. Les deux pénaltys qui ont permis à l'Inter d'égaliser 2-2 pour arracher la prolongation puis de prendre l'avantage dans la demi-heure supplémentaire donneront lieu à coup sûr à des multi-rediffusions et des discussions sans fin. Mais c'est bien l'affamé Simone Inzaghi qui a levé la coupe dans ce stade qu'il a fréquenté pendant deux décennies comme joueur puis comme entraîneur de la Lazio. Et puis en NBA, le pivot serbe Nikola Jokic a été désigné meilleur joueur de la saison régulière NBA pour la deuxième année d'affilée, a annoncé hier soir la Ligue nord-américaine de basketball. La star des Denver Nuggets, âgée de 27 ans, a devancé au vote des journalistes L'intérieur camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, longtemps favori pour le titre, et l'ailier fort de Milwaukee, le grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo, double lauréat en 2019 et 2020.
C'était les sports d'Obagasekura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous, place au dossier du jour. Retour sur l'attaque survenue la nuit de mardi à mercredi au Togo et qui a fait 8 morts parmi les membres des forces de sécurité. Il s'agit de la première attaque d'une telle envergure à viser ce pays côtier, confirmant l'extension de la menace terroriste dans la région ouest-africaine. Pour en savoir plus, Abdourahmane Dia a joint Brakoul Yendabré, journaliste à Radio Motog au Togo.
C'est l'information qui a réveillé presque toute la région des Saranes ce matin. Le poste de Sultan Kandi a été frappé par une attaque terroriste ou djihadiste venant donc du Burkina Faso, faisant état de 8 morts, 8 soldats côté togolais, 14 blessés et un véhicule blindé de type Manda endommagé, un type poulet et une arme emportée. Donc voilà, nos forces de l'ordre, les forces de l'ordre togolais ont été surpris par ces terroristes qui sont arrivés avec des motos, étaient une soixantaine. Et également, le véhicule de l'armée togolaise qui venait à fort à marcher sur une ville, ce qui a plus alourdi donc le bilan.
On sait que c'est une zone qui est proche de la frontière avec le Burkina Faso, mais est-ce qu'on savait que cette zone était un peu dans la ligne de mire des terroristes?
Oui, on peut le dire, hein. on peut le dire, parce que les autorités togolaises ont pris sur elle la responsabilité de sécuriser cette zone avec l'opération Kumbwari, je ne sais pas si vous êtes au courant, et a mis en place des stratégies de lutte hein, contre cette terroriste depuis un moment. Et ça s'est plus accentué avec l'attaque de San Luaga en novembre dernier. Donc, si on peut l'affirmer, oui, le Togo, par l'intermédiaire de ses autorités, avait déjà pris les mesures, puisque dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso, il y a beaucoup de mouvements qui se produisent. Et vous avez vu, après l'attaque de San Luaga, également le président de la République togolaise, avec ses généraux et le ministre de la Sécurité, qui est également originaire de la région, qui venait à tout moment, histoire donc de remobiliser les troupes, de voir, en fait, de toucher, de voir certaines réalités afin de mieux parfaire, de mieux rassurer les forces de la sécurité positionnées à ce niveau.
Justement, parlons des populations. Le Togo, un pays côtier qui est aujourd'hui menacé, quel est un peu l'état d'esprit des populations?
Et on peut dire que c'est la toute première fois où le Togo a été frappé au nord. La première tentative a échoué à San Luaga. C'est la toute première fois où le Togo a été frappé. Et là, c'est une chose nouvelle. Hein. C'est une chose nouvelle qui vient la soulever dans les esprits. Il est vrai qu'il y a assez de craintes, mais les Togolais ont toujours su hein, compter sur leur armée. Surtout lorsqu'on évoque les interventions dans d'autres pays comme Mali et autres, mais le Togo a toujours été bien vu, a toujours bien réagi.
C'était Brakoul Yendabré de Radio Motog au Togo.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine et l'urgence d'une sécurité alimentaire en Afrique. Ce conflit qui oppose deux des plus grands exportateurs de blé dans le monde a mis en exergue la dépendance alimentaire du continent à l'extérieur, poussant décideurs et experts à appeler à une production locale plus importante de produits de base comme les céréales. Le FMI alerte même sur les risques de troubles sociaux en Afrique en raison de la flambée des prix alimentaires en Ukraine. Comment l'Afrique peut-elle réduire sa dépendance alimentaire? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
En République démocratique du Congo, la RDC ne se passe pratiquement pas de jour au sein que des miliciens de la CODECO, coopérative pour le développement du Congo, ne s'illustrent par des massacres dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Mais qui sont-ils vraiment ces miliciens de la CODECO? Eddie Isango a joint à Bunia, un enseignant des sciences politiques à l'université de Bunia et de Kisangani, Didier Likele.
La CODECO est une cible qui signifie coopérative pour le développement du Congo. La CODECO est une nébuleuse qui est à la fois une secte, à la fois un groupe d'autodéfense et à la fois une milice essentiellement composée de l'ethnie Lendu. Ce groupe a été créé dans les années 1999, mais c'est depuis les années 2016 que ce groupe a repris vraiment des activités et se distingue dans les tueries dont les causes sont encore floues jusqu'à ce jour.
Qu'est-ce qui explique sa transformation de la coopérative agricole à une milice ou un groupe d'autodéfense?
L'Ituri est une province qui est à la fois composée des agriculteurs, il y a aussi des éleveurs. Et comme vous le savez, les éleveurs ont tendance à se déplacer, ce qui a constitué dans le temps une sorte de menace contre ces peuples sédentaires qui sont les agriculteurs, donc les Lendu et les autres. Alors, la coopérative qui est partie, n'est-ce pas, d'une association d'agriculteurs étaient nés pour essayer, n'est-ce pas, de s'entraider mutuellement et de défendre leurs espaces contre la menace de l'expansion du peuple éleveur. Et c'est comme ça que ça crée du coup une sorte d'antagonisme entre peuple éleveur constitué des Lendu, des Ngiti et les autres contre les peuples éleveurs ou pasteurs essentiellement composés des peuples Ema. Ce sont des deux peuples qui sont presque ennemis et qui s'attaquent mutuellement de temps en temps.
Ce n'est donc pas exagéré d'affirmer que la CODECO défend les Lendu.
Oui, c'est pas exagéré. En fait, c'est une milice dont tous les Lendu ne sont pas partis, mais qui défend les intérêts Lendu.
Mais quelles sont les relations de la CODECO avec les autres milices? On a vu que ces jours-ci, ils étaient cités ensemble avec les FPIC, avec les APCLS dans des tueries.
Là, ce sont des accords qui arrivent au fur et à mesure que la mission évolue, étant donné que la société est dynamique et l'histoire politique est dynamique. Parfois, les alliances, c'est nous et c'est des nous. C'est dans ce cadre-là. Mais au départ de ces hostilités ici, dans les années 2016, c'est la CODECO principalement qui a commencé. La CODECO a fini par se disloquer et aujourd'hui, on a plusieurs branches des CODECO. Et à la fin des comptes, par rapport aux intérêts des uns et des autres, la CODECO parfois se réalise avec les FPI, appelé communément ici les milices Tinyakilima. Il y a aussi certains membres de la communauté Ema qui ont essayé de créer une autre milice qui s'appelle Zaïre aujourd'hui, qui cherche à se défendre contre les attaques de la CODECO. Ça commence à attaquer de plus en plus la population.
Didier Likele, enseignant des sciences politiques à l'université de Bunia et de Kisangani.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
Au Nigeria, à l'approche de l'élection présidentielle du 23 février prochain, les candidats se multiplient pour succéder à Muhammadu Buhari. Il s'agit notamment de Tunde Bakare, un pasteur populaire et fondateur d'une église pentecôtiste, et du gouverneur de la Banque centrale qui se jette dans la bataille pour la présidence. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Il est considéré comme l'un des pasteurs nigériens prophétiques, apostoliques les plus influents et très populaire pour ses sermons et ses critiques contre le régime successif nigérien. Il était le colistier du candidat Muhammadu Buhari lors de l'élection présidentielle de 2011. Il a été interpellé en mars 2002 après avoir prêché des sermons critiquant l'ancien président Olusegun Obasanjo. Il est maintenant candidat à la présidentielle de février 2023 sur la plateforme du parti au pouvoir APC, le All Progressives Congress du président Buhari.
Mon administration va s'engager à travailler sur quatre projets, notamment la paix, les progrès, la prospérité et les possibilités. Répétez cela après moi, paix, les progrès, la prospérité et les possibilités.
Pour certains analystes, il est difficile d'imaginer que l'Église au Nigeria et ses dirigeants ne seraient pas intéressés à la politique. Cela a suscité des réactions. Sani Yabagi, ancien candidat à la présidentielle de 2019.
Ce que cela veut dire, c'est que les Nigériens se demandent maintenant que signifie la politique. La politique, c'est pour toi et moi, le Nigérien ordinaire, l'homme dans la rue. C'est pour tout le monde. Cela veut dire aussi que c'est la démocratie qui représente le gouvernement du peuple et pour le peuple. Donc, il n'y a rien de mal à ce que tout le monde puisse se présenter pour demander qu'on lui donne une chance.
Mais d'autres Nigériens se demandent si l'Église cherche maintenant la rédemption à travers la politique. Mais l'évêque catholique du diocèse d'Oyo dans le sud-ouest a une autre vision sur la candidature du pasteur Tunde Bakary. Depuis l'achat des formulaires pour le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, pour le ticket présidentiel du parti au pouvoir APC, les appels à sa démission n'ont pas cessé de se faire entendre. Le président Muhammadu Buhari vient de demander au ministre en fonction et candidat à la présidentielle de février 2023 de démissionner avec effet immédiat. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
La Guinée équatoriale importait presque tout de l'étranger. Ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale qui compte 1,4 million d'habitants peine à diversifier son économie dépendante à 90% des hydrocarbures. Ses habitants subissent les effets de la guerre en Ukraine, faisant face à une pénurie de pain. Le point avec notre correspondant à Malabo, Samuel Obiang Mbana.
Malabo, la capitale, souffre depuis un mois d'une pénurie de pain qui est pourtant très consommée dans des milliers de foyers. À l'origine de cette situation, le manque de farine à cause de l'arrêt de l'importation du blé suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux pays avec qui le pouvoir de Malabo entretenait de bonnes relations. Pour éviter la disparition totale du pain, les boulangers ont alors pris certaines mesures. Mazem est un Libanais et responsable d'une boulangerie à Malabo.
Oui, la farine, ça manque dans le pays. Le prix de farine est de plus en plus cher. Ça, c'est une vérité. Nous, par exemple, depuis qu'on a commencé à de nouveau les infos de la crise mondiale, nous avons nos réserves. Donc, on ne vend pas la farine. On a arrêté la distribution parce qu'au niveau des boutiquiers, ils ont des problèmes qu'ils changent le prix du pain. Donc, pour éviter le problème, donc, on a parti vers faire une vente directe pour le client. Donc, bon, les restes des boulangeries, ils ont des problèmes. Certaines boulangeries qui sont des petites boulangeries, donc, leur politique, c'était de diminuer leur poids.
Le pain étant une denrée de première nécessité et face à cette situation, les habitants de Malabo adoptent d'autres comportements dans leur ration quotidienne. Kwana Anna est mère de 4 enfants.
La situation de pain est ahora está fatal porque yo compro panes de mil en mi casa. Mis niños ya no pueden llegar. Prefiero el arroz ahora más que el pan porque no hay posibilidades de comprar panes ahora.
La pénurie de pain a un impact considérable dans le quotidien de la population équato-guinéenne. Amadou est propriétaire d'un fast-food, a même vu ses recettes journalières chuter pour manque de pain.
Mon problème de pain, avant, chaque jour, j'ai un pain de 5 000 francs. Bon, maintenant, comme il n'y a pas de pain, bon, les clients, ils mangent aussi les spaghettis. Ceux qui mangent les spaghettis, ils n'aiment pas manger sans pain. Bon, souvent, ceux qui veulent manger avec le plantain, j'enlève le plantain, je mets un peu de spaghetti à la place du pain. Ça nous crée des problèmes, parce que celui qui aime manger le spaghetti, mange avec le pain. Quand il n'y a pas le pain, automatiquement, il ne veut pas manger ça.
Esther Concha, vendeuse de pain, a aussi perdu ses clients.
Soy una vendedora de pain desde 2006, pero la situación que estamos viviendo ahora de la venta del pan, desde que empiezo a vender panes, nunca he vivido una situación igual. Ahora el pan se ha reducido el tamaño, se ha reducido la cantidad que daban a la gente. Los clientes que tenía antes, la mayoría ya se han ido porque muchas veces vienen aquí, no encuentran panes porque no mandan la cantidad exacta que uno desea. Anteriormente yo cogía 1000 panes, ahora me mandan 200.
Guillermo Mba lui souhaite une révolution industrielle de chaque pays pour éviter ce genre de crise à l'avenir.
Et hacer las fábricas y que tengamos industrias de fabricar la harina a fin de que esa solución nosotros la podemos tener fiable. Pero si nosotros dependemos de otros estados, en caso de una incidencia, siempre estaremos de la manera que lo estamos pasando.
Depuis le début de cette crise du pain, les autorités côte-guinéennes ne se sont jamais prononcées pour trouver une alternative
œuvre afin de résorber la crise. Il y a aussi pénurie d'autres produits comme les œufs et les prix de produits de première nécessité ne cessent d'augmenter avec tous ces effets dévastateurs sur le panier de la ménagère. Samuel Obiambana, Malabo, pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Fatouma Kalala Limassi pour la production et la mise en onde de cette édition. Eric Manelakis a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24 sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.